J'ai le plaisir de modérer cette séance. On va commencer on a 2 heures, donc on va commencer avec Alice Barrows, Clémentine Rubio. Je propose qu'on attribue 40 minutes pour chaque intervention, donc vous deux ensemble, je veux dire. Oui, donc si votre présentation dure jusqu'à 9h25, ça nous laisse 15 minutes pour des questions. Ça vous va? Oui? D'accord. Donc, je présente un peu Alice, que je connais un peu. J'ai eu le bonheur de la rencontrer quand j'ai passé quelques mois à Paris 3 et en 2018. Et donc, ça me fait très plaisir de vous revoir, Alice. Et je ne sais pas si vous allez commencer, vous. Alice, si?
Ouais.
Oui.
Tu veux dire si on commence en discutant toutes les deux ou...
Qui va prendre la parole pour commencer?
Je vais démarrer, mais c'est un travail à deux voix. Mais ouais, je
D'accord.
démarre.
OK. Donc, vous vous organisez comme vous voulez, bien sûr. D'accord. Donc, je vous laisse la parole, Alice. Merci.
Merci Simon. Alors, je vais juste partager mon écran pour vous montrer le PowerPoint. Hop. Je prends une petite minute pour faire démarrer ça.
C'est bon.
Est-ce que c'est bon?
Oui, ça y est.
Super. Ok. Hop. Je me mets un petit minuteur, comme ça on est sûr de ne pas dépasser et de pouvoir accorder du temps à la discussion. Ok, c'est parti. Alors, les résultats de l'étude que nous allons vous présenter et qu'on mène avec Clémentine depuis 2019 visent à comprendre les phénomènes de centralisation géographique de la crédibilité accordée aux productions universitaires dans le champ de la didactique du français langue étrangère. Alors, ce qu'on entend par centralisation à l'intérieur de cette recherche, c'est le phénomène de concentration géographique de cette crédibilité qui va être accordée aux productions universitaires en fonction des zones géographiques. Ce travail se repose sur une double hypothèse. La première hypothèse, ce serait que le phénomène de centralisation géographique, il serait allié à l'existence d'un champ du français langue étrangère qui inclut la didactique du français langue étrangère. La deuxième hypothèse, ce serait qu'il serait possible de retracer la mise en place de ce champ, non pas en faisant une histoire institutionnelle, parce qu'elle a déjà été faite, comme nous le disait David Bell hier dans sa communication, mais par une histoire connectée des circulations. Alors du coup, pourquoi s'intéresser aux circulations? La première chose, c'est que la centralisation, c'est un phénomène qui n'est pas allié directement à la domination, mais à la domination légitimée. Et que dans ce cadre, l'histoire institutionnelle, elle est insuffisante pour comprendre les phénomènes de légitimation. La deuxième chose, c'est que s'il y a centralisation, il y a forcément circulation des productions académiques. Et on postule avec Michel Espagne que les circulations académiques, que les productions académiques, elles ne circulent pas. Ce qui circule, ce sont les individus. On a donc choisi avec Clémentine de faire une étude monographique de l'école de préparation des professeurs de français à l'étranger, et je reviendrai un instant sur ce que c'est, pour pouvoir croiser une trajectoire institutionnelle avec des trajectoires individuelles dans une dimension micro-historique. Alors, l'école de préparation des professeurs de français à l'étranger, c'est une école qui est fondée en 1920 par Ferdinand Bruno et elle a la caractéristique d'être la première école en France, sur le territoire français, qui s'occupe exclusivement de former des professeurs de français pour l'étranger. On a donc postulé que cette école, elle avait un rôle important dans la mise en place de phénomènes de centralisation. C'est pour ça qu'on s'y est intéressé. Cette étude, elle se repose sur le fonds d'archives de l'EPPFE, qui est en train d'être exhumé à la Sorbonne Nouvelle grâce au projet CLIO-DILF, qui est un projet dirigé par Valérie Spaeth. Alors, Pourquoi cette datation 1945-1963? 1945, c'est une date importante parce que c'est justement la date à laquelle vont se formaliser ces circulations des enseignants. Et 63, parce que ça correspond à une période de vie de l'école sous laquelle l'école s'appelle l'école supérieure de préparation et de perfectionnement et de préparation des professeurs de français à l'étranger. Alors, la toute première chose qu'il faut dire, c'est que la préoccupation pour la diffusion et la promotion de l'école via la circulation des enseignants, c'est une constante à l'intérieur de l'école. On en voit des traces dès 1921. Mais ce qui se passe, c'est qu'en 1945, la nature de cette préoccupation va être modifiée. Et l'idée, après la Seconde Guerre mondiale, c'est de tenter de mettre au cœur de la circulation cette école-là, au cœur de la circulation des enseignants. Alors, pour pouvoir comprendre cette modification avant et après-guerre, il faut comprendre le lien entre le ministère des Affaires étrangères et le PPFE. Le ministère des Affaires étrangères, dans le service des œuvres françaises à l'étranger, il est impliqué dès le départ dans la création de cette école-là. En 1920, la somme la plus importante qui est accordée à l'EPPFE, elle l'est par le ministère des Affaires étrangères. Et pourquoi est-ce que le ministère des Affaires étrangères s'intéresse à cette école? C'est parce qu'en échange, il demande à l'école d'assumer des bourses pour les étudiants étrangers qui seraient désignés directement par le SOFE, hein, par le service des œuvres françaises à l'étranger. Donc, on peut dire que dans ce premier moment de l'école, cet intérêt pour la promotion des idées de l'école via l'envoi des enseignants à l'étranger une fois qu'ils sont formés, c'est une préoccupation qui est du côté de l'école, mais ce n'est pas dans la nature des relations entre le MAE et le PPFE. Okay, sauf que cette nature des relations entre le MAE et le PPFE, elle va être profondément modifiée à la fin de l'entre-deux-guerres et pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que le PPFE va devoir défendre, donc l'école va devoir défendre sa place et son statut et justifier son existence au sein de crises politiques importantes comme la Seconde Guerre mondiale pour pouvoir continuer à recevoir des fonds. Et donc pour ça, il va y avoir un glissement discursif de la nature des rapports à l'intérieur des lettres qui sont entre le MAE et l'école, dans lequel le discours de justification, hein, l'argumentaire pour continuer à vivre à l'école, va être un argumentaire qui va se rapprocher peu à peu d'autres argumentaires qu'on trouve pour la diffusion du français, comme celui de l'Alliance française. Alors, les extraits que vous voyez ici, ce sont des extraits de lettres entre Jean Marx, qui est le directeur du SOFE, quand on n'est pas encore sous Vichy, et Henri Chamard, qui est le directeur de l'EPPF. Donc on voit que c'est un discours qui est assez proche de celui de l'Alliance française, dans lequel toutes les actions de l'école sont désignées sous le syntagme œuvre de propagande française, et les enseignants sont les ambassadeurs de la culture française. Ce qui est intéressant ici dans ces extraits, c'est celui de 1939. Pourquoi? Parce qu'on voit que pour la première fois dans les relations entre le MAE et l'école, en 1939, il va y avoir un doute émis sur l'intérêt de former des étudiants étrangers pour la promotion et la diffusion des idées. Et ça, c'est vraiment une nouveauté dans les relations entre le MAE et l'école, au sens où jusqu'ici, les étrangers étaient la préoccupation principale. Et ce glissement, il va s'opérer et s'accélérer dans les échanges avec Vichy. Donc, de 1941 à 1943, ce n'est plus Jean Marx parce qu'il a été destitué et c'est des responsables sous Vichy. Et ça va se traduire en 1944 par un espèce de retournement de situation où, au final, ce qui nous intéresse dans la relation entre le MAE et le PPFE, ce n'est pas tellement les étrangers, c'est avant tout les Français. Et c'est de cette situation dont va hériter l'école en 1945. Donc en 1945, quand Fouché, qui est le directeur après Henri Chamard, prend la direction de l'école, il va aller voir tout de suite le ministère des Affaires étrangères et va naître un accord de cette rencontre qui a comme objectif de transformer l'école et que l'école fournisse un contingent d'enseignants au ministère des Affaires étrangères pour les besoins de l'enseignement du français à l'étranger. Donc, à nouveau, ici, on va s'intéresser dans cette relation entre le MAE et le PPFE à la structuration d'un réseau pour l'envoi des enseignants à l'étranger. Alors, ça se traduit très concrètement à l'intérieur du budget et des subventions qui sont accordées par le ministère des Affaires étrangères. Si on regarde la première ligne, bon, c'est une somme un peu exceptionnelle, hein, celle de 600 000 francs, parce qu'elle correspond à une restructuration de l'école. Mais, et en plus, il y a une inflation importante en 1946. Mais même si on enlève le montant de l'inflation, qui est de 66% pour 1946, ça nous fait quand même 204 000 francs, ce qui est une augmentation significative vis-à-vis des 20 000 francs qui sont accordés avant la Seconde Guerre mondiale. Alors, concrètement, comment est-ce que ça se met en place et quels réseaux vont être mis en place pour la route du prof à l'étranger ? La première chose qu'il faut dire, c'est qu'il existe des réseaux avant 1945. Sauf que ces réseaux, ils sont ponctuels. Soit c'est des réseaux entre institutions. Par exemple, ça peut être l'attribution de bourses. C'est le cas entre Oxford et l'école, par exemple. Ça peut être le fait de reconnaître des équivalences au diplôme. C'est le cas à Vancouver et à Cracovie à partir des années 20. Ou alors, ça peut être des relations privilégiées avec certaines institutions, comme par exemple Columbia, qui dès 1924 va recevoir beaucoup d'enseignants qui sont formés à l'EPPFE. Et ça peut être également un second réseau, qui est celui des élèves, sur lequel je ne reviens pas beaucoup, parce que Clémentine va beaucoup en parler. Mais ce réseau des élèves, il repose sur la création d'une amicale qui existe dès 1921. Et puis qui a un rôle important parce que c'est un rôle de soutien financier entre élèves. Mais ce qui se passe en 1945, c'est une forme d'institutionnalisation du parcours de recrutement qui aboutit en 1946 sur la mise en place d'une espèce de boucle de recrutement qui fait deux choses. Petit 1, elle donne la priorité aux diplômés de l'école quand il y a des candidats à un même poste. Hein, les personnes qui disposent du diplôme de l'EPPFE vont être, en l'occurrence de l'ESPPFE, vont être prioritaires. Et la deuxième, c'est qu'elle réserve un contingent annuel de postes à l'école. Alors, quel lien, comment fonctionne ce placement des étudiants et quel lien avec la diffusion des idées ? Je passe la parole à Clémentine.
Éteins ton micro, sinon on va avoir de l'écho, ouais. Peut-être.
Je fais ça à l'instant, je m'en vais de mon PowerPoint.
Non, tu peux le laisser, pour moi.
Ouais.
Attends,
c'est bon.
Coordination numérique. Ok, merci beaucoup, Alice. Merci. Donc, on a pu voir avec ce que vous a présenté Alice que les circulations des étudiants qui sont devenus enseignants s'organisent à partir de différents réseaux. Et ces trajectoires dessinent des circulations qui ne sont pas aléatoires. Elles bénéficient et elles participent aussi, finalement, à créer des réseaux d'influence. Dans cette instauration de réseaux d'influence, vous allez voir, on va voir ensemble, que le placement des étudiants représente vraiment un enjeu majeur pour l'école et pour l'amicale des anciens élèves. Et ma partie va s'appuyer beaucoup justement sur l'interprétation de bulletins de l'amicale des anciens élèves de l'école, hein, qui fait partie des éléments d'archives sur lesquels travaille le projet CLIO-DILF. C'est un bulletin qui est édité annuellement et où on a des nouvelles de l'école, mais on a aussi des nouvelles des anciens élèves, hein, qui envoient des courriers pour dire où ils travaillent, pour donner des nouvelles et prendre des nouvelles des autres. Donc, ce placement des étudiants qui deviennent professeurs va passer par deux canaux principaux. Un canal qui est institutionnel et puis un canal moins formel, un peu en écho avec les réseaux qui ont été présentés par Alice. Donc, on s'aperçoit que l'école se préoccupe énormément de la valeur et de la crédibilité du diplôme. Et bon, évidemment, ce n'est pas une préoccupation qui est nouvelle en 1945. On la voit apparaître, par exemple, dans un bulletin publié par l'Amicale en 1935, dont je vous propose un extrait ici. Qui dit hein, « Les anciens contribuent plus largement à l'extension de l'enseignement du français à l'étranger, et ce, dans l'intérêt de tous les diplômés de l'école. Plus le diplôme sera connu et apprécié à sa juste valeur, plus nombreuses et intéressantes seront les situations proposées. » Donc, on voit qu'il y a une intention de crédibilisation qui va prendre forme institutionnellement et qui s'officialise dans la période charnière de 45 avec la réforme du diplôme qui est un moment clé dans le processus de crédibilisation. Il faut bien comprendre qu'il y a deux objectifs qui sont concomitants. L'objectif d'épouser épouser finalement les objectifs ministériels de diffusion de la langue, de la culture et de la pensée française, hein, jusqu'à devenir, je cite, un organisme qui répond aux besoins du MAE, c'est ce que vous a présenté Alice jusque-là. Et puis le second objectif, qui est concomitant donc, c'est de rendre crédible l'école en tant que centre de formation d'enseignants compétents. En parallèle, cette lutte pour la reconnaissance de l'école va se mener sur un autre front au sein du réseau des anciens élèves de l'école. Donc, ce processus de crédibilisation de la formation et du diplôme délivré va s'appuyer sur ce réseau qui va, pour défendre le diplôme, mettre en place un système de cooptation qui va fonctionner à un niveau micro dans chacun des établissements dans lesquels vont travailler les élèves, mais qui est bien orchestré et encouragé par l'amicale des anciens et donc par l'école, hein, puisque l'école et l'amicale ont des liens extrêmement serrés. Pour vous parler de cela, je vous propose deux extraits. Le premier, c'est issu de l'Assemblée générale de l'Amicale en 1946, qui précise donc que l'activité des membres doit aider l'école à répandre la culture française et ils exhortent les anciens élèves à défendre partout. Défendez partout vos droits et lorsque vous serez placés, vous défendrez le droit de vos jeunes camarades. Vous tiendrez pour inadmissible que des organismes étrangers et même français ignorent l'existence à l'Université de Paris d'une école spécialisée dans la formation des professeurs. Deux ans plus tard, dans le bulletin, là encore, on rappelle que l'association ne doit pas être uniquement sentimentale, mais qu'elle doit bien servir. Hein. C'est un groupement solide dont les membres se serrent les coudes. Il est indispensable que chaque ancien entreprenne dans son secteur un travail de prospection. Hein, et il s'agit d'envoyer, par exemple, des listes d'écoles, de collèges, d'universités qui auraient besoin de professeurs de français. Et dans tous les bulletins, on peut voir des témoignages de tel poste obtenu par tel ancien élève, de tel contact qui a été transmis à tel autre élève. On voit bien que l'enjeu de placement, c'est un enjeu qui est de taille, et il faut le comprendre parce qu'il y a une obligation d'exercer à l'étranger au plus tard dans les deux années qui suivent le passage par l'école. Donc, il y a bien un objectif de circulation, et plus précisément, un objectif de diffusion. Et cet objectif de diffusion, il doit se faire dans les cadres prévus, pensés et contrôlés par l'école. L'idée, c'est qu'il faut former des professeurs qui vont se rayonner et l'école, et la France, mais ce rayonnement, il ne doit pas se faire n'importe où. Comme je disais, il doit être encadré, il doit être contrôlé. Quand on voit des exemples d'enseignants qui sont recrutés hors de ces cadres, la réponse est la réprobation. Un bulletin des années 50, pour vous donner un exemple, parle de graves imprudences pour caractériser le choix de certains enseignants de travailler pour des gouvernements étrangers. Donc, cette injonction à devenir des ambassadeurs, des agents de l'influence de l'école, en parallèle des agents de l'influence française plus largement, c'est un élément clé pour comprendre comment la circulation des personnes et la circulation des idées vont de pair. Pour essayer de comprendre comment ces deux éléments fonctionnent ensemble, je vous propose un extrait d'une lettre du directeur de l'école à la DGRC qui date de 1946. L'extrait commence par rappeler la promesse tenue par l'école de s'inscrire dans les objectifs du ministère des Affaires étrangères et dans ses besoins plus exactement. Et puis, elle précise que d'ores et déjà, des étrangers ont été formés, qui sont devenus des amis de la France et de nombreuses demandes de renseignements nous prouvent que des professeurs déjà diplômés dans leur pays sont tout prêts à se plier à nos disciplines pour recevoir la formation de l'école. Donc évidemment, les enseignants ne circulent pas seuls. En tout cas, au départ de l'école, ils passent par l'école et en repartent en emportant dans leur valise les acquis de leur formation et les méthodologies qui sont enseignées. Dans beaucoup de courriers des anciens élèves qui sont retranscrits dans les bulletins, on peut voir l'attachement des anciens à leur école et à ce qui leur a été enseigné en termes de contenu. Et donc, au cours des formations qu'ils vont donner, des conférences, des discussions qu'ils vont avoir partout dans le monde, on perçoit qu'ils se donnent une mission de diffuser ce qu'ils envisagent comme les bonnes méthodes. Sans trop de surprise, ces bonnes méthodes sont des publications françaises. Et puis, ça se resserre, dans la période qu'on étudie là, ça se resserre autour de la méthodologie SGAV. À partir de 1957, il va y avoir une section dans le bulletin qui sera consacrée aux nouvelles parutions de France, avec cette idée de faire une sorte de veille, de mise à jour pour les anciens élèves, hein, qui puissent se tenir au courant des ouvrages qui sont publiés en France, et puis voir d'avoir un espace de discussion pour dire telle méthode, pourquoi est-ce qu'elle fonctionne mieux en Amérique latine qu'en Grande-Bretagne, par exemple. Dans le bulletin qui lance hein, cette nouvelle section, il est fait mention de la possibilité aussi de faire paraître des informations sur des essais méthodologiques réalisés à l'étranger. Mais en réalité, dans aucun des bulletins, on trouvera d'éléments sur des méthodes qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas des méthodes ou des manuels publiés en France. Et en cherchant, je n'ai trouvé qu'un seul exemple de bulletin qui parle de ce qui peut se faire à l'extérieur. C'est un bulletin qui est antérieur à la période qu'on étudie là. C'est un bulletin de 1933. On a un membre de l'Amicale qui propose de renforcer l'Office de renseignement pédagogique ou bibliographique pour y intégrer justement des éléments sur ce qui existerait dans les pays d'installation des anciens élèves. Mais le bulletin en question dit que cette proposition n'a reçu aucun écho. Donc, bien qu'on ait privilégié jusque-là dans cette communication le terme de circulation hein, pour donner à voir des trajectoires enseignants, il est important de préciser le sens de ces circulations, hein, à la fois leur direction et leur signification. Le système qu'elles dessinent est un système de diffusion qui est pensé, qui est volontariste. À la fois, cette diffusion, c'est celle d'enseignants et d'enseignantes hein, qui sont exhortés à exercer à l'étranger et à participer à la diffusion de la réputation et de la crédibilité de l'école. C'est aussi une diffusion donc, de l'image de l'école et de ses méthodes. La circulation inverse en direction de l'école, finalement, ne concerne que les étudiants qui proviennent d'autres pays, mais on n'apprend rien de ce qu'on contienne leurs propres valises, hein, que ce soit en termes de langue, d'expérience ou de méthode, si ce n'est qu'ils sont, hein, pour reprendre la citation de Fouché, tout prêts à se plier aux disciplines de l'école pour recevoir la formation de l'école. Donc pour essayer de conclure, on voit que les réseaux de route des professeurs participent à assurer et à reproduire la crédibilité de l'école et de ses idées dans une forme de circularité, hein, puisque l'école a besoin de construire cette crédibilité, son existence en dépend. Au fil des bulletins et des rapports, on voit ce désir de rendre l'école crédible, d'en défendre la qualité, la formation et les méthodes. On attend explicitement des étudiants devenus enseignants et enseignantes, d'en être les ambassadeurs. Pourtant, quelques bribes de bulletins nous donnent à voir aussi les personnes indépendantes qui étaient ces enseignants qui étaient passés par l'école. Je vais vous donner trois exemples. Irène Brunet, hein, une ancienne étudiante qui s'installe, qui est recrutée par l'Alliance française de Jamaïque et qui dit dans un long courrier qu'elle a dû faire évoluer les contenus pour s'adapter à une situation à laquelle elle n'était visiblement pas préparée. On a aussi l'exemple des propositions hein, que j'ai mentionnées tout à l'heure, des propositions d'étudier et de diffuser des méthodologies locales, qui est une proposition réelle, hein, même si elle a été retoquée par les gardiens de la pérennité de l'école, que sont les membres de l'Amicale des Anciens. Et puis, on peut penser aussi à l'exemple de celles et ceux qui ont fait le choix de travailler hors des cadres pensés par l'école, même si, là encore, le seul écho qu'on en ait, c'est la réprobation de l'Amicale. Donc, le sens de cette circulation permet de comprendre comment se constitue une centralisation didactique qui n'a rien d'un état de fait, finalement, hein, ou d'un produit d'une simple supériorité de méthode sur d'autres. Les idées, elles ne circulent pas uniquement du fait de leur pertinence ou de leur légitimité, disons, intrinsèque. Ça participe, bien sûr, mais on voit aussi qu'elles circulent parce qu'il y a des personnes qui circulent et que ces personnes ont des statuts qui sont porteurs de légitimité et des statuts autour desquels on a organisé une politique de légitimation. Donc, cette étude de cas de l'école et de l'organisation de la circulation des personnes qui permet une légitimation de l'école, de la France et de ses méthodologies, ça permet de comprendre le lien ténu entre les mouvements de circulation des personnes, dans le sens de la diffusion, et l'instauration d'une domination méthodologique. Ces éléments nous amènent à nous poser la question, comme Philipson l'a fait hein, pour l'anglais dans son ouvrage sur l'impérialisme linguistique, de savoir si et comment cette diffusion contribue à la reproduction et à la répartition d'un pouvoir à la fois linguistique, culturel, formatif et académique. Voilà, merci, et nous serons ravis de répondre à vos questions, si vous en avez.